pour ceux qui nous rejoignent en cours de route qui n'étaient pas là la semaine dernière, on a commencé une série sur le thème du travail. On a vu que le travail, c'était une bonne chose voulue par Dieu. On a constaté que Dieu lui-même travaille dès la première page de la Bible. Et l'homme créé comme image de Dieu travaille lui aussi. Travaille pour cultiver, pour administrer, pour développer ce que Dieu lui a confié. Le travail, c'est une bonne chose voulue par Dieu. C'est donc fondamentalement une bénédiction. Et c'est la rébellion de l'homme contre son créateur, c'est en Genèse 3, qui a amené une sanction divine et son lot de difficultés en rapport avec le travail. Le travail devient difficile, il faut transpirer pour gagner son pain dès lors, et les relations humaines s'enveniment. Alors lors de l'introduction de cette série sur le travail, j'ai souligné le risque qu'il y a de séparer dans nos vies, d'un côté la sphère spirituelle, souvent symbolisée par la rencontre du dimanche matin avec mes frères et sœurs, et puis le reste de ma vie, et en particulier ma sphère professionnelle. Ça, c'est le reste de la semaine, et j'arrive pas trop à faire le lien, je vois pas trop où est Dieu dans mon travail. Or, le travail fait partie intégrante de nos vies, c'est le moins qu'on puisse dire. Or, nos vies tout entières ont vocation à être un culte rendu à Dieu. L'apôtre Paul écrit dans l'une de ses lettres « Frères et sœurs, chrétiens, Dieu est plein de bonté pour nous. Alors je vous demande ceci, offrez-lui votre personne et votre vie. C'est le sacrifice réservé à Dieu et qui lui plaît. Voilà le vrai culte que vous devez lui rendre. Ne suivez pas les coutumes du monde où nous vivons, mais laissez-vous transformer en vous donnant une intelligence nouvelle. Ainsi vous pourrez savoir ce qu'il veut, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. » Le culte, donc, d'après ce texte, ne désigne pas premièrement cette réunion hebdomadaire des chrétiens, mais l'adoration rendue à Dieu et qui s'étend à notre personne et notre vie, comme dit cette traduction qu'on a là, et donc notre travail aussi. Notre vie a vocation à être un culte rendu à Dieu, ce qui inclut notre travail. Nous lirons dans un instant, la Bible envisage le travail comme un service pour Dieu et un service pour les autres. C'est ce que nous verrons aujourd'hui. Le travail vu comme un service pour Dieu et un service pour les autres. Et l'un des textes qui va nous guider, c'est le suivant. Le travail, un service pour Dieu, c'est à nouveau l'apôtre Paul dans une autre de ses lettres qui donne des exhortations dans les différentes sphères de la vie. Il a expliqué ce que Dieu a accompli en Christ pour chacun des chrétiens. Et il explique quelles sont les implications dans les différentes sphères de la vie, et en particulier dans la sphère professionnelle. Alors dans le contexte, il parle d'esclaves. Mais les esclaves, attention, c'est pas ce qu'on entend par esclavage moderne. C'était des gens qui étaient attachés au service de quelqu'un. Certes, ils n'étaient pas libres, mais c'est pas les esclaves comme on pense de l'esclavagisme aux États-Unis, etc. Donc on pourrait étendre l'idée à aux serviteurs ou aux travailleurs, c'est ça que je veux dire aussi. Donc Paul dit ceci en termes de recommandations pour le travail. Vous, esclaves, c'est page 272 dans la deuxième partie de la Bible, pardon, pour ceux qui veulent suivre aussi dans le texte éventuellement, dans l'épître rouge de l'Église, mais je le projette. Page 272, c'est Éphésiens 6, versets 5 à 7. Vous, esclaves, obéissez à votre maître terrestre avec toute la crainte qui s'impose, avec droiture de cœur, et par égard pour Christ. N'accomplissez pas votre tâche seulement quand on vous surveille, comme s'il s'agissait de plaire à des hommes, mais agissez comme des esclaves de Christ, qui accomplissent la volonté de Dieu de tout leur cœur. Accomplissez votre service de bon gré, comme pour le Seigneur, et non pour des hommes. En fait, Paul est en train de nous dire que c'est plus que notre patron que nous servons, c'est Dieu lui-même que nous servons, en quelque sorte. En effet, si notre patron, même si c'est un mauvais patron, si notre patron a une autorité, c'est que Dieu lui a délégué en quelque sorte cette autorité. C'est ce que Paul explique dans une autre de ses lettres, la lettre aux Romains. Il invite à la soumission aux autorités en disant que tout homme se soumette aux autorités supérieures, car il n'y a pas d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et celles qui existent ont été instituées par Dieu. Alors elles sont pas parfaites, et les gens qui sont en autorité ne suivent pas forcément Dieu, mais en quelque sorte ils sont là parce que Dieu a voulu qu'ils soient là. Donc voilà une exhortation puissante de l'apôtre Paul pour nous. Travaillez comme pour le Seigneur, et non premièrement pour votre patron, on pourrait dire. Ou même pour vous-même. On abordera encore d'autres facette de peut-être des pièges que peut représenter le travail pour nous. Tout le cœur qu'on peut y mettre, ça peut devenir une forme d'idole, quelque chose dans lequel on place toute notre espérance en fait, toute notre vie, notre temps, notre ambition. Mais c'est pas ça qu'on va voir aujourd'hui. Le travail est un don de Dieu, il est constitutif du fait que nous sommes image de Dieu, et il faut le regarder comme un service pour Dieu. Alors, soyons concrets, en quoi mon travail peut-il être service pour Dieu? Comment puis-je servir, honorer, adorer Dieu lorsque je travaille? Qu'est-ce que vous en pensez?
Bah, respecter nos tâches.
Ok, donc.
On nous demande de faire, a priori.
Donc, être respectueux des tâches qui nous sont confiées. Il faut se rappeler que vous avez signé un contrat de travail.
C'est ça, mais déjà.
Donc, en fait, vous avez.
Respecter son contrat de travail.
Il y a un contrat. Voilà. Donc, en fait, ça revient à respecter sa parole, en quelque sorte, le fait de respecter ce qui nous est confié.
Notre engagement envers notre patron, quoi.
Ok, c'est juste. Quoi d'autre?
Travailler comme si c'était pour Dieu.
Alors, oui, mais ça se manifeste concrètement. Comment?
Faire les choses de manière. Très bien, bonne en fait.
Ok, donc viser l'excellence, viser quelque chose comme si c'est pour Dieu, du coup, je donne le max, c'est ça que tu veux dire.
Comme quand on sert à l'église, mieux.
Et là,
Pendant
les temps
de télétravail,
personne ne nous voit. Ouais, Paul le dit ici, travaillez même quand il n'y a personne qui vous surveille. Ça, c'est fort, hein. C'est là qu'on voit si on est sérieux ou pas. C'est vrai que le télétravail, pour ça, est particulier. Ça fait partie de respecter son engagement. Quoi d'autre encore?
Savoir que Dieu nous a placés à cet endroit et de venir pour cela, et dire si je suis là, c'est pas pour rien non plus, et aussi moi j'ai cette vision-là de ouvrir du port pour aussi parler de sans tout mélanger parce qu'on soit repris par l'autorité. Quoi. Mm. Mais il y a aussi un moyen de montrer à nous du Seigneur et de parler d'autres.
Ce sera un sujet qu'on va creuser. Comment finalement. Se dire j'aimerais partager ma foi avec les gens qui m'entourent et dans le contexte professionnel comment ça se vit, comment ça se fait, il y a des contraintes, il faut de la sagesse, du discernement, on abordera ça aussi, mais en tout cas ce que tu évoques, considérer le travail comme un service pour Dieu et se dire en fait je sais que je suis pas là par hasard, Dieu a voulu que je sois là et pas ailleurs et donc je suis comme un instrument entre ses mains, donc comment je peux bénir les autres et éventuellement aussi leur partager ce qu'il y a de bon à connaître Dieu. Voilà.
Ouais. Je profite aussi que, comme a dit Frère, Dieu nous a travaillé, c'est pas par hasard qu'on travaille. Et aussi, on doit être un modèle, on doit représenter Christ, par exemple, notre vie. Comme vous savez très bien que nos vies parlent plus que nos paroles. Donc, c'est vrai que notre vie, notre façon d'être au travail, doit refléter Dieu. Je pense que c'est moi qui suis décédé.
Ouais, donc ça part. Enfin, ça revient un peu à ces idées de. Viser quelque chose de un bon travail accompli avec beaucoup de soin et une bonne attitude.
Pas que dans le travail, pas que les tâches même qu'on gère, mais aussi à vos collègues, enfin, ça avec avoir.
Je pense que ça va beaucoup jouer dans ce registre-là, des relations interpersonnelles en fait. Parce que le Seigneur nous appelle à vivre, c'est de l'aimer de tout notre cœur et du coup d'aimer notre prochain. Et donc, vu qu'on passe beaucoup de temps au boulot, c'est aimer nos collègues. Ils sont pas tous aimables en général, toujours quelques-uns. Et c'est là qu'il y a quelque chose en fait qui est un challenge, mais que Jésus nous appelle à vivre à sa suite en fait. Il a dit aimez vos ennemis. Donc on abordera aussi ces questions de conflit au boulot. J'aimerais juste faire une remarque par rapport à cette question de travailler comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Parce que certains pourraient mal le comprendre et considérer que c'est un prétexte pour défier l'autorité. Moi, je travaille pour Dieu, je travaille pas pour les hommes. Vous voyez ce que je veux dire? Je me souviens dans un groupe de quartier auquel je participais il y a quelques années, et il y avait une fille comme ça, j'avais l'impression qu'elle était tout le temps en fait en opposition avec sa hiérarchie. C'est-à-dire rien n'allait, jamais. Ah, on lui donnait trop de travail, etc. Mais en fait, j'ai l'impression qu'elle était toujours dans un rapport de force, comme si elle avait une forme en fait d'insoumission. C'est ce qui ressortait en fait, parce qu'elle en parlait tout le temps. Vous savez, c'est des groupes de quartiers, de maisons, on se retrouve régulièrement, et donc on parle souvent de nos contextes de travail autre, justement pour prier. Et elle était toujours dans ce registre-là. On a l'impression que c'est elle qui devait expliquer à son patron ce qu'elle devrait faire. Qu'on lui donnait trop de dossiers, etc. Et il me semble qu'en fait, c'est une mauvaise compréhension de l'attitude qu'on est appelé à avoir. Travailler comme pour le Seigneur et non pour des hommes, ça ne veut pas dire ça. Travailler pour Dieu, Ça signifiait en fait respecter son patron, respecter son autorité. Une question a été posée et elle est tout à fait légitime. Mais jusqu'où va ma loyauté, ma soumission à mon patron? C'est une question qui évidemment se pose. Et l'enseignement général de la Bible, c'est nous soumettre aux autorités. Comme j'ai lu tout à l'heure dans Romains 13, soumettez-vous aux autorités. Ils ont une autorité parce que Dieu leur a délégué. Donc soumettez-vous à eux. Et ils ont leur autorité pour administrer le droit et faire respecter les choses, et c'est bon. Ok, ceci étant dit, quand faudrait-il aller jusqu'à désobéir aux autorités? La Bible nous montre que c'est quand ce qui nous est demandé est franchement contraire à sa volonté. Dans le contexte professionnel, pour être plus précis, parce que sinon ce serait un débat très général, on nous demande parfois des choses qui nous gênent, qui nous posent un problème de conscience. En tant que chrétien, le plus commun, ça va être de mentir, parce que ça nous arrange, il y a quelque chose qu'on a mal fait, et donc auprès d'un partenaire, un client ou autre, on va nous demander de maquiller la réalité, de donner une raison bidon ou autre. On va nous demander peut-être de frauder, on n'utilise pas forcément le terme, mais des fois on comprend qu'il y a des choses qui sont borderline, ou qui sont même derrière la ligne en fait. Donc il y a toutes ces choses-là, et donc on dit, ok, comment je fais concrètement, parce que je suis salarié, je suis en poste, je risque peut-être des choses si je décide de sortir de ce qu'on me demande. On peut craindre pour son avancement, ou même carrément d'être licencié. Alors, je crois qu'il faut demander vraiment à Dieu beaucoup de sagesse pour savoir ce qui convient dans chaque situation, mais aussi du courage parfois pour ne pas aller dans le sens qui nous est demandé et avec lequel on n'est pas du tout d'accord en tant que chrétien. J'ai le souvenir d'une amie avec qui j'ai grandi dans l'église, et elle est venue à travailler dans le domaine de la conception de sites web, et donc dans un cabinet qui proposait ça, et elle a été fortement gênée le jour où sa responsable lui a demandé en fait de construire un site pour un client qui faisait de la voyance. Donc il fallait construire un site pour eux. Et du coup, ça l'a troublée parce qu'elle a dit « Je suis pas à l'aise du tout avec ça. Qu'est-ce que je fais ?» Donc, après prière, réflexion, elle est venue voir sa responsable, sachant que c'était quand même compliqué, parce que quand on te donne une tâche, justement, t'es employé pour concevoir des sites web. T'es pas censé, c'est pas écrit dans ton contrat de travail, les restrictions ou quoi que ce soit. On te demande de créer un site web pour lui, là, le client. Tu fais du site web, c'est tout. Mais elle est allée voir sa responsable et elle a dit « Écoutez, moi je suis chrétienne, ça me pose un problème de conscience en fait de travailler pour ce client-là parce que pour moi c'est quelque chose que Dieu n'honore pas du tout et je suis mal à l'aise avec ça. » Et sa responsable a reçu le message en fait. Elle a compris que dans son contexte c'est quelque chose qui était bloquant vraiment. Je vous dis pas que ça se passera toujours comme ça. Mais en fait ce qui est pour moi encourageant, c'est qu'elle a osé aller au-devant et maintenir finalement ses convictions. Et malheureusement, des fois, on échoue. Et on est déçu de nous-mêmes. On se dit, je me suis assis sur mes convictions. Ou parfois, quand on a eu peur juste de dire qu'on est chrétien, par exemple, je dis pas qu'il faut crier sur les toits qu'on est chrétien avec un mégaphone. Mais parfois, il y a ce risque-là, où on se dit, ah mince, là, je me suis assis sur mes convictions. Donc, cette question de jusqu'où va ma loyauté, il faut demander de la sagesse. Et puis je crois que parfois il y a des actions qui relèvent pas directement de ma responsabilité. Là c'était quelque chose qu'on lui demandait pour elle-même. Ensuite il y a des choses qui concernent peut-être mon service ou mon entreprise, et là la question c'est, est-ce que en fait je dois aller dans un registre finalement de sorte de justicier, je me souviens dans un des emplois que j'ai occupé, mon N+2 c'était vraiment un patron véreux. C'était un homme colérique qui avait des pratiques professionnelles douteuses et des relations exécrables. Ça m'est arrivé de participer à un rendez-vous avec le client et il y avait le directeur financier qui était en conf call. Il était en train de le menacer, de l'engueuler. Et genre les gens, ils sortaient de leur bureau à côté tellement le gars. En fait, c'était un homme colérique et et du coup, il était très destructeur comme ça. Donc, c'est pas lui qui m'avait embauché au moment où je suis rentré dans la boîte, c'était mon N+1, j'ai pris beaucoup de plaisir à bosser avec ce gars. Mais le N+2, c'était vraiment une personne peu recommandable. Je savais parfois, parce que mon N+1 me disait les magouilles qu'il faisait. Par exemple, il venait en déplacement professionnel depuis Bordeaux jusqu'à la région parisienne avec son gros 4x4 et il s'arrangeait pour facturer les frais et débours à chacun de ses clients. Donc il s'arrangeait toujours pour avoir un rendez-vous avec chacun des clients. Il venait un jour et demi, il voulait faire 3 rendez-vous, même si c'était juste, il s'était assis sur la chaise, et comme ça, il mettait en frais de mission. 3 fois les mêmes frais de mission. Oui. Donc, à partir de ce moment-là, est-ce que... Moi, je considère que à un moment donné, c'est plus mon périmètre, c'est-à-dire c'est sa boîte, le gars. Donc, c'est ça que je veux dire, c'est que parfois, il faut savoir discerner là où c'est vraiment notre rôle, quand ça nous engage, quand c'est de nous dont il est question, ou c'est dans un rapport direct avec un client ou son boss. Et parfois, il y a des choses où c'est compliqué et c'est peut-être pas notre rôle immédiat, en fait, d'intervenir. Maintenant, je dis pas que certaines personnes peuvent pas dénoncer d'une manière ou d'une autre. On pourra en parler à nouveau la semaine prochaine pour tout ce qui est des conflits professionnels, des questions de harcèlement au travail, etc. Mais comment on réagit, c'est un peu des sujets connexes. Alors, revenons à notre point du jour, le travail comme service pour Dieu, ça nous motive du coup à travailler de tout notre cœur. Ça donne une autre dimension en fait, qu'on considère qu'on ne travaille pas uniquement pour son patron, mais que ultimement en fait on travaille pour Dieu parce que on a reçu ce boulot aussi comme un cadeau qui vient de sa part, une grâce. Et donc on va travailler avec sérieux, avec empressement, avec persévérance, où qu'on soit, au bureau, à l'usine, à l'école, à l'hôpital, à l'église, à la maison. Qu'on puisse le faire comme un service pour Dieu. Travailler pour servir Dieu et travailler pour servir les autres. Ça va de pair. Peut-être qu'on pourrait mentionner qui sont les autres. La famille. Pour ceux qui ont une famille, je travaille aussi pour servir ma famille. Je travaille pour subvenir aux besoins de ma famille. Et ce sont mes premiers prochains. Et donc, je les bénis et je les sers au travers de mon travail. Je travaille aussi pour bénir mes collègues. Ils sont aussi ceux que Dieu a mis sur mon chemin. Et donc, on est là parce que Dieu l'a voulu. Vous savez, on a ces textes qui nous parlent de porter du fruit, que l'action de Dieu dans nos vies va produire des effets, va transformer notre caractère. On a ces versets de Paul qui parlent de ce fruit que produit l'Esprit. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la maîtrise de soi, etc. Mais tous ces fruits-là, un fruit, c'est fait pour être mangé, c'est fait pour être consommé. Quand il y a une pomme dans un arbre, elle est faite pour être mangée par les autres. Il y a un peu de ça. Quand on parle du fruit de l'esprit, des fois, on perd de vue que c'est pas juste pour moi-même, en fait, d'être content, de dire « Ah voilà, mais moi, ça produit de l'amour, de la joie. » Non, mais en fait, l'amour qui émane de toi, elle est au bénéfice des autres. La joie qui émane de toi, elle est au bénéfice des autres. Si vous avez un collègue qui a une grande joie de vivre, c'est une bénédiction pour les autres. Et donc, c'est une manière de servir les autres. Je sais que Naomi a souvent été appréciée dans ses boulots pour ça, parce qu'elle amène cette joie de vivre dans le bureau, dans les relations, et c'est très important, le relationnel au travail. Donc, c'est là que le Seigneur nous attend. Parce que comme j'ai dit tout à l'heure, tous nos collègues sont pas aimables. Et c'est là que c'est plus dur. C'est des collègues aimables, c'est facile. Alors on va chacun amener des chocolats, etc. Parce qu'on veut. Je me souviens dans le boulot précédent de Naomi, il y avait un collègue, il était pas facile. Des fois, j'entendais les conversations au téléphone que Naomi elle pouvait avoir, en particulier en 2020, quand il y avait le télétravail, il y avait ces échanges téléphoniques un peu plus souvent donc à la maison. Mais ce collègue-là, il était assez spécial. Il était un peu marginal comme gars, vieux garçon. C'est une personne qui, semble-t-il, n'avait pas beaucoup d'amis. Et j'ai vu que Naomi, elle prenait du temps chaque semaine, pendant que c'était le télétravail avec le Covid. Chaque semaine, elle prenait un moment pour l'appeler, voire même chaque jour, j'ai oublié. Mais elle prenait du temps pour, en fait, garder du lien avec ce gars-là, prendre de ses nouvelles. Alors que, bon, c'est vrai, le gars était un peu dans sa bulle, pas forcément très intéressant, etc. Mais c'est ça, en fait, que le Seigneur nous appelle à vivre, en fait. D'aller peut-être vers le collègue que personne ne va voir. Le collègue qui est marginalisé pour une raison X, Y, Z, c'est ça. Servir les autres, ça se joue beaucoup, comme je disais tout à l'heure, dans ces relations interpersonnelles. Et bien sûr, la manière dont je travaille aussi, dans le contenu, dans les missions. La façon dont je travaille. Est-ce que je travaille avec nonchalance? Je prends mon temps, les dossiers, ils avancent pas, je respecte pas les délais. Est-ce que j'esquive mes responsabilités? Je m'arrange toujours pour que mes tâches, elles soient rebasculées. C'est jamais mon périmètre. C'est pas moi qui fais ça, c'est Patrice. Ok. Est-ce que je fais un travail médiocre et en fait mon collègue ou mon responsable il doit toujours repasser derrière? Si vous avez un collègue de ce genre-là, vous savez comment c'est pénible. En ce moment, Naomi, dans son entreprise, il y a deux apprentis. Et les filles, des fois, elles rentrent du travail, c'est pas du tout exploitable, quoi. Et du coup, tu vas repasser dessus complètement. Alors, il y a une question de formation, faut pas blâmer quand on est en apprentissage. Mais pour nous, si on est dans notre poste, est-ce qu'on rend du travail qui est propre, entre guillemets, pour aussi bénir nos collègues? Ils reçoivent un truc qui est bien fait. Je sais pas si ça vous arrive, vous avez un fournisseur, ou quelqu'un, un collègue, qui doit vous rendre quelque chose, et vous voyez qu'il l'a fait nickel. Bah, ça fait du bien. Ça fait du bien. Et c'est important, de le souligner. C'est important de le souligner, j'y reviendrai tout à l'heure. Donc, ces relations avec les collègues, on peut l'étendre à les relations avec les clients, les fournisseurs, les partenaires. On peut être un bienfait pour les autres parce que on délivre un service qui est de qualité, parce qu'on produit quelque chose qui est excellent, parce que on fait attention dans nos relations à être bienveillant et à être respectueux, etc. Et puis enfin, d'une manière plus large, travailler pour les autres, c'est aussi travailler pour le bien commun, travailler pour la société, si on peut s'exprimer ainsi. Je discutais cette semaine avec Marion et Quentin qui travaillent dans des établissements qui accueillent des handicapés qui viennent pour travailler, un ESAT, ça s'appelle. Et quelle belle mission, parce que ça donne à ces personnes-là une dignité qu'ils peuvent travailler eux-mêmes, subvenir à leurs besoins. C'est quelque chose de beau. Je pense à mon beau-frère qui est médecin généraliste dans une petite ville. Bah, il y a un bienfait pour les habitants. Ça court pas les rues d'avoir un médecin. Donc, il peut délivrer quelque chose qui va être apprécié et bénir la communauté humaine qui est autour de lui. C'est magnifique de ce qu'on peut apporter aux hommes, aux femmes qui nous entourent, à la communauté humaine. Et peut-être que ton travail, personnellement, ne te donne pas cette impression que tu es utile pour la communauté humaine, que tu apportes une contribution majeure. Peut-être que tu remplis des tableaux Excel pour préparer les comptes de tes clients, tu remplis des rayons dans un supermarché, tu nettoies des sanitaires, etc. Mais ton travail compte. Ton travail compte. Lorsque vous remplissez la compta d'un client, vous participez à la transparence qui est nécessaire à des relations de confiance dans des relations économiques. Lorsque vous travaillez dans un supermarché, en fait, vous rendez un service aux habitants d'un quartier, vous rendez des produits disponibles, vous êtes utile. Lorsque vous travaillez pour la propreté, vous donnez un environnement propre et agréable à vos collègues, aux personnes qui utilisent les locaux où vous êtes. Parce que parfois, je perds un peu de vue le sens de mon travail. La Bible nous rappelle ce matin que on a accompli notre travail déjà comme un service pour Dieu. On l'a accompli dans la reconnaissance du fait que cet emploi, c'est Dieu qui m'a permis d'avoir. Et on l'a accompli aussi parce qu'on est utile aux autres. On est utile aux autres dans la manière dont on travaille. Cette semaine, je suis allé faire une copie d'une clé un peu plus loin chez le cordonnier qui est un peu plus haut. Et c'était la première fois que je venais dans sa boutique. Et je suis rentré dans sa boutique, c'était tranquille. Il avait un petit fond de musique classique, il était en train de réparer un escarpin ou je sais pas quoi, de faire une semelle. Et je suis venu faire ma clé, mais on a eu un super échange. On a discuté musique classique, je sais pas quoi, je lui ai dit que j'étais le pasteur de l'église, il a dit « Ah, ok, je connais votre prédécesseur, etc. » Il m'a béni. Juste, je suis allé faire une clé, mais dans le cadre de son boulot, il m'a béni. Pareil pour le boulanger de mon quartier, qui propose des petits flans nature qui nous régalent à chaque fois qu'on va le prendre. C'est top. Donc chaque boulot, en fait, apporte quelque chose aux autres. Et notre société fonctionne grâce au travail des uns et des autres. On l'a vu au moment de la pandémie. Donc, je veux pas faire ici l'éloge du travail comme la valeur suprême ou comme un moyen de salut, etc. Une source ultime de satisfaction. Non. Mais je veux souligner qu'il s'agit d'un don de Dieu pour nous les hommes, et en particulier lorsqu'il est vécu comme un service aussi pour les autres. Et d'ailleurs, ça vaut, comme je viens de le dire, pour le travail accompli par quelqu'un qui est chrétien ou qui ne l'est pas. C'est une bénédiction de Dieu aussi. Je recite à nouveau cette parole de Martin Luther King que j'avais mentionné la semaine dernière. Celui qui est appelé à être balayeur de rue doit balayer comme Michel-Ange peignait. ou comme Beethoven composait, ou comme Shakespeare écrivait. Il doit balayer les rues si parfaitement que les hôtes des cieux et de la terre s'arrêteront pour dire « Ici vécut un grand balayeur de rue qui fit bien son travail ». C'est beau. Et ça vaut en particulier justement pour des métiers qui sont plus ou moins méprisés. Mais je pense, et c'est une remarque annexe que je fais ici, il est bon d'apprécier le travail de ceux qui nous entourent. Et lorsqu'il y a quelque chose de qualité, de le dire. En particulier pour les gens qui sont méprisés de par la, entre guillemets, bassesse de leur métier. Dites à une caissière que vous appréciez venir à sa caisse parce qu'elle est aimable, parce qu'elle discute avec gentillesse. Je suis allé chez le coiffeur la semaine dernière et la coiffeuse, je suis venu il y a 4 mois, elle me demande des nouvelles de mes jumeaux. Franchement, je suis touché. Ça fait du bien. Donc, soyons reconnaissants et sachons aussi apprécier et dire notre appréciation à ceux qui travaillent bien, parce que c'est une grâce que Dieu nous donne. Dernière remarque, vous avez peut-être un boulot, aujourd'hui vous le qualifierez d'alimentaire. Ce boulot, c'est juste pour vivre. Ou alors un boulot qui est inférieur à vos attentes ou à vos aspirations, à vos diplômes. Déjà, on l'a vu avec cette citation de Martin Luther King, tout travail, pour peu qu'il soit honnête et pas immoral, on en parlait la semaine dernière, est digne. Il est bénéfique parce qu'il donne une activité. Et il est bon d'avoir une activité. Et il nous donne aussi un moyen de subsistance. Rien que pour ça, déjà, on peut remercier Dieu. Et parfois, il faut se reprendre. Quand je suis sorti de la fac en 2008, je me suis retrouvé à chercher un boulot dans un marché du travail qui était complètement bloqué parce qu'il y avait la crise financière qui est venue frapper à ce moment-là. Et donc, toutes les entreprises ont arrêté de recruter. Et moi, je sortais d'un master en finance d'une bonne université. Et je me suis retrouvé à devoir travailler comme rédacteur de compte-rendu de réunion. Et donc j'ai pris un petit coup à l'ego. Sauf que ce travail, c'était une véritable bénédiction. Parce que c'est l'année où avec Naomi, on s'est marié. Et Naomi, elle était étudiante. Donc si j'avais pas eu ce boulot, on serait pas installé. On n'aurait jamais pu trouver un appart. Et finalement, j'ai gardé ce boulot pendant plus d'un an et demi, je crois. Et donc, c'était vraiment une bénédiction. Donc, soyons reconnaissants, changeons peut-être notre angle de vue sur ce qu'on fait, et puis rappelons-nous que un travail peut être aussi transitoire. Peut-être que si nous avons des espérances ou des attentes différentes, on pourra reprendre une formation, partir sur un autre métier, quelque chose de plus satisfaisant à l'avenir. Donc soyons reconnaissants, même si notre travail n'est pas satisfaisant à tout niveau, ou si notre patron n'est pas idéal. En conclusion, donc, cultivons cette reconnaissance à Dieu et puis regardons notre travail comme un moyen de servir Dieu. Je pense qu'on a besoin de se le rappeler, on perd souvent de vue. Et je crois que ce texte de Paul nous encouragera dans notre quotidien et de nous rappeler que notre travail est aussi pour servir les autres. Je termine en citant le pasteur Somerville sur ce sujet du travail. « Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur comme pour le Seigneur et non pour des hommes. » Il cite l'apôtre Paul. Il dit « Le service, c'est le mot-clé de la conception biblique du travail. Il lui donne sa valeur et son sens. Le travail est l'un des lieux où se vit la vocation du chrétien qui est de servir. Aucune tâche ne peut être méprisée dès lors qu'elle a valeur de service puisqu'elle est par là même une expression de l'amour du prochain. »